Fidèles auditeurs et auditrices, bonsoir et bienvenue dans ce numéro de ce soir du Forum de Studio Kalangu, l'émission qui vous permet de mieux comprendre des questions d'actualité et de société que vous vous posez habituellement. Aujourd'hui, notre thème porte sur la contribution des leaders religieux dans la promotion de la scolarisation de la jeune fille au Niger. La Déclaration universelle des droits de l'homme considère à son article 26 le droit à l'éducation comme étant un droit pour chaque personne. C'est à ce titre que partout au monde, les actions de plaidoyer se multiplient afin que les garçons et les filles puissent avoir les mêmes chances d'aller à l'école. Au Niger, il a été indiqué que la prise en compte de ce droit à l'éducation des filles fait partie des principaux axes stratégiques de la déclaration de politique générale du gouvernement DPG adoptée par l'Assemblée nationale en mai 2021. Il s'agit de l'axe relatif à la solidarité et à l'inclusion sociale. Que disent les religions révélées sur le droit à l'éducation en général et la scolarisation de la jeune fille en particulier? Quel doit être le rôle des leaders religieux dans la promotion de la scolarisation de la jeune fille au Niger? Pour en débattre, nous avons le plaisir de recevoir dans ce studio Monsieur Alou Meiga. Il est prédicateur, membre du bureau exécutif national du comité intra- et interreligieux CEDIR, et révérend Baragé Jelgou, pasteur de l'église évangélique de Niamey. Il est également membre du bureau exécutif national du comité intra- et interreligieux CEDIR Niger. À la modération de ce forum, je suis Michel Deji. Bienvenue à vous si vous venez de nous rejoindre dans ce forum de Studio Kalangu. Je vous rappelle que ce soir, nous parlons de la contribution des leaders religieux dans la promotion de la scolarisation de la jeune fille au Niger. Pour commencer, Monsieur Alou Meiga, prédicateur, que dit l'islam sur la question de l'éducation en général et la scolarisation de la jeune fille en particulier?
Bismillahirrahmanirrahim. L'éducation, donc, nous savons qu'il y a un hadith du prophète qui demande à tout musulman d'aller chercher du savoir. Le savoir, même, même jusqu'en Chine. Or, pour qui connaît la distance entre l'Arabie et la Chine, on sait que donc c'est un chemin à faire. Donc, c'est de vu ce point de ce point de vue, les religieux, surtout nous au niveau du Niger ici, nous avons pris à bras le corps la scolarisation de la jeune fille comme un thème de sensibilisation à travers nos associations islamiques, puisque moi qui vous parle, je suis également secrétaire général du groupement des associations islamiques pour les questions de population et développement social. Depuis 97 à ce jour, nous sensibilisons sur la scolarisation de la jeune fille, sur la promotion de la jeune fille, et surtout sur la santé sexuelle des adolescents et des jeunes en milieu scolaire. Donc, c'est un thème que nous, au niveau des religieux musulmans, nous nous sommes toujours attelés à cela.
Ça veut dire que l'islam encourage?
L'islam encourage l'éducation
en général et la scolarisation de la jeune fille en particulier.
Puisque, également au niveau religieux musulman, nous savons qu'il y a également un hadith authentique qui dit que tout individu, tout musulman qui a pu éduquer son trois filles et jusqu'à les mettre dans leur, comment dirais-je, entre les mains de leur époux, alors, comment dirais-je, son corps est épargné de l'enfer. Donc, éduquer une jeune fille et surtout lui donner un enseignement et une scolarisation, c'est un devoir de tout parent, et plus particulièrement celui qui se réclame encore d'être musulman.
Merci beaucoup.
Je vous en prie.
Révérend Baragé Jelgou, le christianisme est-il favorable à la scolarisation de la jeune fille?
Je commence toujours par remercier Dieu qui m'a donné cette occasion de pouvoir m'exprimer par rapport à cette importante question. La Bible, le christianisme sont toujours d'accord et favorables à l'éducation donc de la jeune fille et de la femme en général. Pourquoi j'ai dit cela? Premièrement, lorsque Dieu a créé l'homme, la première observation, c'est qu'il a constaté que l'homme était seul. et il a dit, je lui ferai une aide semblable à lui. On ne peut pas être aide d'un responsable si on ne connaît rien, si on n'est pas équipé. Donc, Ève, la première femme qui a été créée, Dieu l'a équipée avec tout le nécessaire pour être une aide, n'est-ce pas, à son mari Adam. Ensuite, il y a beaucoup de versets de la Bible qui confirment, qui appuient et confirment cela. Par exemple, il est dit dans la parole de Dieu, apprends à l'enfant la voie qu'il doit suivre. Et même quand il deviendra vieux, il ne s'en détournera pas. Donc, quand on dit l'enfant, c'est homme et femme. On doit les apprendre la voie. Et la voie qu'ils doivent suivre, c'est bien sûr la voie dans le sens de la crainte de Dieu. Il y a beaucoup de passages où il est exhorté à apprendre aux femmes et aux hommes et aux enfants, n'est-ce pas, la parole de Dieu, la voie normale qu'ils doivent suivre. Dans Proverbe chapitre 31, on nous a développé la femme vertueuse. Mais quand on considère tout ce que cette femme vertueuse doit faire et fait, on saura très bien que ce n'est pas une femme ignorante qui fait ce genre de choses. C'est une femme qui a été formée, équipée, n'est-ce pas, qui a suivi une certaine éducation. Donc la Bible est favorable et elle encourage l'éducation donc, de la femme par rapport donc, à la vie de tous les jours et dans tout ce qu'elle fait. Je crois que la jeune fille, quand elle est éduquée, déjà, il y a un chien qui dit elle est la mère de l'humanité, n'est-ce pas? Donc, c'est elle qui éduque. Dès qu'un enfant vient au monde, la première personne qui est en contact avec elle et qui doit l'écouter, qui doit la suivre, à qui elle doit donner, donc, c'est la femme. Donc, par rapport à cela, je crois qu'il n'y a pas à douter ni à discuter. La femme occupe une place importante dans le domaine de l'éducation. Et une femme éduquée, c'est tout un pays, tout un village qui est éduqué.
Merci beaucoup. Il faut justement rappeler que selon les chiffres officiels de l'Institut national de la statistique INS, le taux d'alphabétisation en 2019 au Niger est de 29%, avec 42,8% pour les hommes et 17,1% pour les femmes. Monsieur Alou Mega, prédicateur musulman, pensez-vous que la faible scolarisation de la jeune fille constitue un frein à son plein épanouissement et au développement socio-économique du pays?
Vraiment, on est désolé de le constater et de le dire maintes fois. Malgré les efforts, il y a des difficultés multiples. D'abord, il y a l'éloignement des lieux d'enseignement, c'est-à-dire les écoles le plus souvent sont éloignées des villages. Moi qui vous parle, je suis de la région de Tillabéri, donc plus exactement à Terra. Il y en a qui font 7-8 kilomètres avant d'arriver à leur lieu d'études. Et compte tenu également des difficultés que notre pays traverse ces derniers moments où toutes les classes, la plupart des classes sont détruites et autres, avec tous ces facteurs-là, et il y a également la pauvreté ambiante également au niveau des parents, qui n'arrive pas à subvenir le minimum vital pour ses enfants, pour une jeune fille, pour se déplacer, pour aller étudier, ça pose problème. Non seulement elle est exposée en tant qu'être humain, et également ça venir le ventre creux toute la journée, passer jusqu'à le soir et retourner à la maison sans encore trouver quoi que ce soit à la maison. C'est vraiment des situations que Dieu nous aide seulement pour pouvoir amener notre pays là où nous voulons pour son développement. Mais vraiment, à l'heure actuelle, l'éducation des jeunes filles, ça pose des problèmes et ça demande que chacun de nous puisse apporter sa contribution pour que cela aille le mieux possible. Puisque quand une femme est illettrée, qu'est-ce qu'elle peut? Puisque on a dit que l'éducation de la jeune fille, une femme éduquée, c'est une femme qui peut apporter sa contribution, ne serait-ce que pour l'éducation de son propre enfant. Même au point de vue ordonnance, quand on donne à une femme qui est illettrée, qu'est-ce qu'elle va lire? Alors l'autre connaît même le dosage du médicament qu'il faut donner à l'enfant. Elle est en mesure également d'aider le mari au cas où le mari est malade et autres. Et si par chance elle arrive à avoir un diplôme qui lui permet d'être autosuffisante au point de vue fonction et puis elle s'émanciper. Alors donc c'est une contribution au foyer. Donc voyez-vous, de l'éducation de la jeune fille, c'est quelque chose qu'il faut vraiment encourager et surtout soutenir. Nous avons que tout récemment, on a déjà vu également que le chef de l'État sortant, Issouf, avait sorti un décret pour le maintien et le soutien de la jeune fille à l'école. C'est des initiatives qu'il faut encourager. Mais malheureusement, nous sommes dans une société, comme on dit le plus souvent, on accuse à corps, à cri, le musulman, surtout le côté religieux, qui disent que c'est un frein pour l'éducation de la jeune fille. Or, au contraire, nous, les religieux, nous encourageons l'éducation et de la jeune fille. Ce n'est pas un frein. C'est
valeur. Les religieux, est-ce que c'est unanime, on peut dire? Est-ce que
c'est unanime, presque tous les éléments, on le sait, puisque nous avons tenu des séminaires un peu partout dans toutes les 8 régions du Niger et nous sommes entretenu avec les partenaires autour de l'école, c'était les COGES et autres, les parents d'élèves, hommes et femmes, et tout partout, pour soutenir justement l'encouragement de ces jeunes filles. On a même fait des séminaires avec des maîtres d'école et autres au niveau des centres d'enseignement, aussi bien secondaires que primaires, pour que des règlements intérieurs puissent être en faveur des jeunes filles pour les encourager à venir, et même auprès de leurs collègues masculins pour les soutenir. Nous encourageons les kystes scolaires et autres, les kystes d'hygiène qui sont maintenus dans les lycées et CEG pour aider la jeune fille de se protéger et d'être à l'abri de certaines raillies de ses collègues masculins. Donc, nous, au niveau des associations religieuses, nous encourageons vraiment la scolarisation de la jeune fille.
Merci beaucoup, pasteur. Il a eu à parler de la question de la protection même de la scolarisation de la jeune fille. Il faut rappeler justement que cela a été l'objet d'un décret. Mais vous, quelle analyse globale vous faites?
C'est à encourager. C'est à encourager dans ce sens que, pour nous, les chrétiens, nous connaissons très bien l'importance de l'éducation, raison pour laquelle il y a pas mal d'écoles qui ont été créées, n'est-ce pas, qui reçoivent des jeunes filles et qui éduquent des jeunes filles. Et d'ailleurs, je m'en vais pour parler un peu, ma femme, elle a même ouvert un centre où elle accueille des femmes et des jeunes filles, n'est-ce pas, pour leur éducation, pour les apprendre à, comment on appelle ça, la couture et tout un tas de choses. Et même, il y a une classe d'alphabétisation. Oui, tout ça, c'est dans le souci de pouvoir aider la femme, de sortir de l'obscurantisme, pour pouvoir s'épanouir, pour pouvoir faire quelque chose et être indépendante économiquement, et même pour qu'elle soit vraiment plus utile pour son mari, pour ses enfants, pour la société tout entière. Donc, c'est vraiment à encourager, n'est-ce pas, pour que les jeunes filles puissent aller à l'école. Si elles sont parties à l'école, vraiment, ça serait pour le bien de la société tout entière. Pour le bien de la société, dans ce sens que El Hadj Alou Mega vient de le dire, si elle sait lire, en cas où il y a une ordonnance ou quelque chose donné, elle peut lire, elle peut savoir le dosage, elle peut faire beaucoup de choses. Donc,
aujourd'hui, quand le message, quand on utilise un téléphone,
au lieu d'aller chercher quelqu'un qui va lire ou qui va, elle peut directement répondre. Toujours, nous, on revient sur ce que la parole de Dieu a dit, la Bible. La femme a été créée pour l'homme. Je sais que les gens, il y a beaucoup qui n'aiment pas entendre ça, mais l'homme n'a pas été créé pour la femme. Mais c'est la femme qui a été créée pour l'homme, mais pour qu'elle soit une aide. Pas l'esclave de l'homme, mais une aide. Et Dieu a doté la femme de tout le nécessaire. Pourquoi nous, en tant qu'humains, nous allons bloquer la femme ou empêcher la femme d'être instruite, de s'épanouir dans ce sens-là? Donc, nous, vraiment, on encourage et toutes les voies possibles, en tout cas pour éduquer, pour permettre à la femme d'avancer, en tout cas, nous ne faisons qu'encourager cela.
Mm-hmm. Alou Mega, il arrive qu'on cite parmi les facteurs qui freinent la scolarisation de la jeune fille au Niger des raisons religieuses malgré tous les efforts et cette synergie d'action dont vous venez justement de parler, que faut-il comprendre à ce sujet alors?
C'est-à-dire à ce sujet, la plupart du temps, on incrimine la religion musulmane, dire que c'est une religion qui bloque. En réalité, la religion musulmane n'est pas là pour bloquer la jeune fille. Au contraire, on encourage l'éducation et l'émancipation de la femme. D'ailleurs, nulle part où vous trouverez où on doit confiner la femme à un rôle quelconque, sinon de son émancipation. En islam, comme on le dit, l'émancipation de la femme et surtout son maintien, son autonomisation, c'est une garantie. La femme a droit à avoir des responsabilités au même titre que les hommes. Elle a droit à aller s'émanciper, à aller s'éduquer, s'informer et puis se former d'abord pour pouvoir subvenir aux besoins. La seule condition que l'islam dit que la femme, avant de sortir, qu'elle ait une tenue décente. Ni plus ni moins, mais toute autre forme ou autre interprétation sur quoi. Bien entendu, on parle également de mariage, comment dirais-je, précoce ou autre, ou de mariage des enfants, la crèche de mariage des enfants. Effectivement, c'est-à-dire que l'islam ne fait pas une obstruction à l'éducation.
Le lien. Les partisans, ceux qui défendent.
Le plus souvent, les enfants de l'amalgame. Puisque.
Quand il y a le mariage des enfants, ça bloque les filles.
Mais justement, à l'heure actuelle au Niger, le mariage d'une fille ne peut pas l'empêcher de s'instruire. Mm-hmm. Puisqu'on peut continuer ses études quand bien même on est une femme mariée. Mm-hmm. À l'époque, en arrière, bien entendu, une jeune fille. Quand elle se marie, elle ne vient plus à l'école. Or, cela n'est plus le cas.
Aujourd'hui,
à l'heure actuelle, c'est autorisé. La fille peut être mariée et continuer ses études. Aller à l'école, terminer le lycée,
enfants,
aller à l'université. Or, une fois à l'université, là, c'est un autre domaine. Donc, son problème est déjà réglé. Elle est déjà majeure, plus de 18 ans. Donc, elle jouit des mêmes droits que les hommes. Donc, le problème ne se pose pas. Et puis, la scolarisation, comment dirais-je, le mariage des enfants, même nous, au niveau des religions, nous luttons. Mais il faut que la fille soit en âge de procréer, que c'est son corps qui détermine qu'elle est en âge de se marier. Mais le mariage des enfants, même au point de vue de l'islam, personne ne donnera un petit enfant à un gaillard pour se marier s'il n'a pas l'âge de se marier. Ça n'a même pas de sens.
Ça veut dire que vous faites des efforts
dans
ce sens.
On fait des sensibilisations entre nous au niveau dans chaque région du Niger. D'abord, il n'y en a même pas un seul département au Niger où nous ne nous sommes pas rendus pour faire des sensibilisations et des émissions, aussi bien des discussions à la radio ou dans les radios communautaires et autres, et surtout au niveau des religieux entre nous. Et puis, chaque section dans les régions du Niger, nous avons des représentants qui continuent. Et puis, chaque jour que le bon Dieu fait, les marabouts sont à pied en train de sensibiliser les gens sur les ondes.
Merci beaucoup. Nous entamons à présent la deuxième partie du forum de Studio Kalungu de ce soir, portant sur le thème « Contribution des leaders religieux dans la promotion de la scolarisation de la jeune fille au Niger ». Et c'est pour parler à présent du rôle et de la responsabilité des leaders religieux dans la promotion de la scolarisation de la jeune fille au Niger. Êtes-vous déjà impliqué dans le cadre de cette promotion de la scolarisation de la jeune fille au Niger, Révérend Baragé Jelgou?
Bien sûr, je suis impliqué dans ce sens que non seulement je suis un responsable d'église où nous prêchons, où nous encourageons les femmes à se donner pour, en tout cas, les femmes à s'instruire, voilà le mot que je cherche. Et nous nous basons toujours de la parole de Dieu. Tout ce que nous faisons, nous ne faisons que nous baser de ce que la parole de Dieu nous exhorte de faire. Écoutez l'éloge, n'est-ce pas, que la parole de Dieu donne à la femme. J'aimerais lire un texte, une partie de la Bible, ce qui démontre que la femme doit être éduquée.
Allez-y.
C'est dans Proverbes chapitre 31, verset 10 et suivant. Voilà ce que dit la Bible. « Heureux celui qui trouve une femme vaillante. Elle a bien plus de prix que des perles précieuses. Son mari a confiance en elle. » Il ne manquera pas de bien dans sa maison. Tous les jours de sa vie, elle lui fait du bien et non du mal. Elle cherche avec soin du lin, donc ça c'est un tissu, n'est-ce pas, et de la laine, et elle travaille de ses mains diligente, comme un vaisseau marchand. Elle amène des vivres de loin en sa demeure. Quand il fait nuit encore, elle est déjà debout, préparant pour sa maisonnette ce qu'il faut pour manger, et elle distribue leurs tâches à toutes ses servantes. Elle pense à un champ. Alors, elle l'achète. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Avec plein d'énergie, elle se met à l'œuvre et active ses bras. Elle constate que ses affaires marchent bien. Jusqu'à tard dans la nuit, sa lampe est toujours allumée. Ses mains filent de la laine et ses doigts tissent des vêtements. Elle ouvre largement la main à l'indigent et tend les bras aux pauvres. Pour elle et tous les siens, peu importe la neige, c'est-à-dire les temps difficiles, car toute sa famille, donc je vais résumer, n'est-ce pas? Et surtout, on a dit que c'est une femme qui veille et qui travaille, qui pense, qui réfléchit, qui développe ce qu'elle a, et elle fait du bien à tout le monde. Donc, une femme qui n'est pas instruite, comment est-ce qu'elle va, n'est-ce pas, penser à toutes ces étapes-là pour pouvoir faire quelque chose? On a dit son mari la loue, ses enfants la louent. Même ses voisins et tous les gens qui étaient avec elle la louent, parce que c'est une femme vaillante et qui donne un bon exemple, n'est-ce
et
pas?
Quelles sont vos actions? Vous avez parlé donc de vos prédications, vous abordez cette thématique.
Nous abordons de temps en temps des thématiques sur l'éducation de la femme. Nous avons également des écoles où nous sommes impliqués, n'est-ce pas, qui aussi enseignent des jeunes filles. Et comme je l'ai dit aussi, il y a des centres des jeunes aussi, filles et femmes, qui apprennent. Donc, dans toutes ces actions-là, nous sommes impliqués et nous donnons des conseils. Et aussi, nous prions pour, en tout cas, la réussite de toutes ces écoles et de toutes ces activités qui sont réalisées à l'endroit des femmes.
Merci beaucoup, Révérend Baragé Jelgou, pasteur de l'église évangélique de Niamey. Monsieur Alou Mega, prédicateur, que recommandez-vous afin que la femme nigérienne puisse être mieux outillée au plan éducatif pour être plus forte face à tous les défis?
En tout cas, au niveau de l'islam, comment dirais-je, nous avons maintes fois fait des sensibilisations sur les droits et devoirs de la femme en islam. Donc, la femme en islam, donc, elle a des droits, elle a des devoirs. Devoirs vis-à-vis de son époux, devoirs vis-à-vis de ses parents, devoirs vis-à-vis de la nation dans laquelle elle évolue. Et il y a également, elle a ses droits aussi qui doivent être préservés par les uns et les autres. Chacun doit respecter comme tel. Et puis, elle a ses devoirs également et son droit en tant que citoyenne également. Elle doit évoluer. Donc, l'émancipation de la femme est maintenue et encouragée par l'islam. Voilà donc les sensibilisations dans lesquelles nous, nos leaders religieux, au niveau de nos associations islamiques, nous nous attenons chaque jour à sensibiliser à tout moment. On en informe et on rappelle les gens les droits et devoirs des femmes en islam.
Et quel doit être le rôle des leaders religieux dans la promotion de
dans la promotion, c'est continuer
de
cette sensibilisation et surtout c'est donner une bonne information de la lecture de ce que doit être une femme, le respect auquel elle a droit et surtout son importance et sa contribution pour la marche et le bien-être de la population en général et de son pays en particulier.
Sur le terrain, est-ce qu'il y a des réticences?
C'est l'ignorance. En réalité, les gens, il faut pas se fatiguer. La répétition est toujours une bonne conseillère. Il faut toujours se mettre à répéter. Donc, il n'est jamais trop tard pour bien faire comme on a l'habitude de le dire. Donc, à chaque fois, il faut rappeler les gens leurs droits, leurs devoirs et surtout conscientiser chacun pour que chacun puisse avoir, comme on le dit, de comportement acceptable. Donc, c'est pour un changement, amener les gens vers un changement de comportement.
Il faut amener donc les gens vers un changement de comportement, c'est ce que vous préconisez.
Effectivement.
Êtes-vous d'accord, Révérend Baradje Jalou?
Je suis entièrement d'accord dans ce sens que même au sein de nos églises et de nos associations chrétiennes, il y a des départements et des structures réservées strictement aux femmes. Les femmes se retrouvent, par exemple, au sein de nos églises, une fois, ne serait-ce une fois par semaine. Elles invitent des fois des éminents serviteurs de Dieu pour les encourager, pour les instruire. Et une fois par an aussi, il y a les femmes de de tout le Niger, qui viennent de toutes les régions du Niger, qui se rassemblent, 200, 300, des fois même jusqu'à 500 femmes, en invitant des éminentes personnes, donc des prédicateurs, pour, n'est-ce pas, écouter la parole de Dieu, pour s'instruire, pour s'encourager, pour le donner et le recevoir. Donc, en tout cas, la femme a une place très importante. Et nous encourageons cela parce que une fois que Dieu te donne une femme qui est instruite, qui est éduquée, n'est-ce pas, c'est du trésor qu'il t'a donné. Elle sera une bonne aide et elle va accomplir comme elle se doit, n'est-ce pas, le travail que Dieu lui demande de faire. Et ainsi, elle sera agréable à Dieu, elle sera agréable à son mari, elle sera agréable à ses enfants, agréable à la société tout entière.
Donc, comment améliorer alors cette contribution des leaders religieux dans la promotion de la scolarisation de la jeune fille au Niger? On voit que vous faites beaucoup de choses, mais comment renforcer tout cela?
C'est d'encourager les églises, encourager les différentes structures, en tout cas, à penser à ce volet. De ne pas empêcher les femmes, n'est-ce pas, et les jeunes filles surtout d'aller à l'école. De ne pas les empêcher, en tout cas, de se joindre à des endroits où elles peuvent augmenter leurs connaissances. En tout cas, c'est l'encouragement que nous pouvons donner aux différents leaders. Et même dans nos prêches, ça serait bien que les prédicateurs puissent aussi faire ressortir cette valeur, cette importance, n'est-ce pas, le fait d'éduquer une femme. Quand on éduque une femme, n'est-ce pas, c'est toute la nation qui est éduquée. Et je crois que la base, la vraie base, n'est-ce pas, pour le développement, pour le bien-être, pour le bon vivre ensemble, commence d'abord dans le foyer. Et qui est dans le foyer? Si souvent, c'est la femme qui est dans le foyer. Donc, nous encourageons à tous les niveaux, n'est-ce pas, de faire en sorte que les jeunes filles, que les femmes, n'est-ce pas, arrivent à s'éduquer et à connaître. Merci beaucoup de choses.
Merci beaucoup, révérend pasteur Baragé Jalgou. Monsieur Alou Maïga, prédicateur musulman. Vous êtes également membre du bureau exécutif national du CEDIR, le comité intra- et interreligieux. Quel conseil avez-vous à donner à l'endroit des parents à ce sujet?
À l'endroit des parents, nous leur tenons un langage de vérité, puisque quand on dit qu'on parle ce que nous voulons, vient des hadiths et du Coran, c'est leur, comment dirais-je, le livre par excellence. Donc ce n'est pas de nous, mais nous nous réclamons de ce que Dieu a dit, voilà, tel dans tel ou tel passage, avec verset et, comment dire, à l'appui. Maintenant, ce que nous souhaitons, c'est toujours ce que nos appels et nos, comment dirais-je, nos conseils soient appuyés par les médias. Puisque les gens, vous n'êtes pas sans savoir qu'à l'heure actuelle où nous vivons maintenant, vous n'êtes pas sans savoir que tout un chacun est à l'écoute de vous, journalistes. C'est votre rôle, c'est l'importance que vous jouez dans la société pour mettre à la disposition des gens les recommandations, les conseils et autres qui sont donnés par-ci ou par-là, par les différentes confessions religieuses de notre pays. Malheureusement, à l'heure actuelle, nous constatons une fuite de responsabilité de la part des parents. C'est pour ça que l'État met beaucoup d'efforts pour essayer de chercher à ce que les enseignants s'impliquent davantage pour jouer un rôle dominant. Et il faut également qu'on donne aux enseignants en question l'honneur qui leur est dit, que reconnaissent leur imminent rôle dans la société et surtout les appuyer en tout lieu, dans tous les domaines, et même au point de vue pécunier ou autre. Puisque à l'heure époque, nous, notre génération de plus de 70 ans, quand nous voyons notre maître d'école, on essaie d'arranger même notre habillement pour ne pas se présenter d'une manière débraillée devant le maître. À plus forte raison, on ne veut même pas que le maître vous trouve certains endroits ni accompagné de certaines personnes. Or, ce qui n'est pas le cas. Maintenant, il y a une fuite de... Les enseignants également ne sont pas reconnus à leur juste valeur. Il faut les valoriser. Ils ont leurs droits. Ils ont, comment dirais-je, leur particularité. Ils jouent un rôle imminent pour le marchand, parce que c'est eux qui sont chargés de former les petits esprits pour les amener à prendre conscience de leur rôle en tant que futurs citoyens. Effectivement, quand on ne connaît pas quelque chose, on peut tout se permettre de certains. À l'heure actuelle, justement, l'État même fait tout pour que les enseignants essaient de pallier à l'insuffisance de l'éducation constatée dans les familles. Or, l'école, c'est un enseignement. C'est un enseignement. On enseigne à l'école, mais c'est à la maison qu'on éduque. Or, maintenant, ce sont les enseignants même, on demande qu'ils jouent le rôle d'éducateur pour essayer de pallier à l'insuffisance des parents, parce qu'il y a la fuite de responsabilité. Les parents ne cherchent pas à écouter leurs enfants. Ils sont traumatisés par leur travail, par le manque de besoins, par un besoin croissant de ce qu'ils ont. Même le minimum vital, ils n'arrivent pas à assumer à la maison. À l'heure, ils fuient, on ne les voit même pas à la maison. Et maintenant, c'est les enseignants qui se substituent aux parents pour essayer d'éduquer même les enfants. Donc, ces gens-là, ils doivent également être encouragés, et surtout dans leur curriculum d'enseignants aussi doit être étoffé pour qu'ils soient en mesure de jouer leur rôle d'éducateur et d'enseignant en même temps. Nous, au niveau des religieux, nous luttons contre l'extrémisme, et d'ailleurs nous sensibilisons les gens pour ne pas se laisser tomber dans le vocable des extrémistes et autres là, puisque quand on dit que l'éducation ça ne sert à rien, donc l'éducation, quelle que soit la langue dans laquelle vous êtes éduqué, vous êtes en mesure de jouer votre rôle au sein de la société. Il y en a qui font une formation en chinois. On a vu des étudiants ici, moi personnellement j'étais à l'enseignement supérieur, des étudiants qui ont fait le français ici, une fois leur bac on les a envoyés en Chine, ils sont sortis médecins, professeurs, ingénieurs, associés à cela, avec la langue chinoise, ils ont été en Union soviétique, ils ont devenu ingénieurs et autres, ils ont été en Bulgarie, en Pologne, en Tchécoslovaquie, dans les pays arabes, pour devenir actuellement des enseignants, des maîtres. Tout ce que vous voyez comme professeur ou bâtonnier, conseiller ou inspecteur de l'enseignement secondaire et autres, là, qui ont fait les pays arabes et autres, là, et ont commencé par le français avant d'aller se perfectionner en arabe ou en telle ou telle autre langue.
Merci beaucoup. Je vous en prie. Révérend Baragé Jelgou, pasteur de l'église évangélique, avez-vous des attentes particulières à ce sujet?
Oui, j'ai des attentes dans ce sens que, à l'endroit de l'État d'abord, que l'État donc veille sur l'éducation, la qualité des enseignants et la qualité de l'enseignement qu'on donne. Ça, c'est très important. Du côté des parents, je sais que Lala Jalou Maïga a parlé de cela. Il y a une fuite de responsabilité que nous constatons. Nous devons savoir que Dieu va nous demander des comptes. La manière dont nous éduquons nos enfants, la manière dont nous abandonnons nos enfants, la manière dont nous laissons la rue enseigner nos enfants, Dieu va nous demander des comptes. C'est pourquoi un bon père, une bonne mère, elle doit veiller sur ses enfants, leur sortie comme leur entrée, ce qu'ils lisent, ce qu'ils regardent, ce qu'ils font, leurs camarades, leur lieu de fréquentation. Toutes ces choses-là doivent être l'objet, n'est-ce pas, du regard des parents. Nous devons prendre nos responsabilités et nous lançons un appel à l'ensemble des parents. Parce que si nous prenons notre responsabilité, je vous assure, certaines choses que nous voyons se dérouler devant nous aujourd'hui n'allait pas avoir lieu. Dans le temps, quand un enfant commet une bêtise, on n'a pas besoin d'attendre que son papa ou sa maman vienne. Ce sont les grands qui étaient là qui le corrigent. Et quand les parents arrivent et qu'on leur raconte ce qui s'est passé, ils vont aller remercier ces personnes-là. Mais aujourd'hui, vous touchez l'enfant de quelqu'un d'autre, c'est la bagarre, c'est la guerre, n'est-ce pas? Il y a beaucoup, beaucoup de témoignages de choses terribles. J'ai salué un ami qui m'a dit, écoute pasteur, moi mon enfant avec l'événement du téléphone là où on regarde WhatsApp et du n'importe quoi, il a dit, l'enfant à l'école primaire, lui, ses enfants, il ne les donne pas téléphone. Il permet le téléphone avec tout le reste là une fois arrivé au lycée. Et l'enseignement qu'il doit donner, l'éducation, la fondation qu'il doit donner à ses enfants, il l'a déjà donné. En ce moment, l'enfant sera à mesure de faire un choix. Donc, les parents doivent prendre leurs responsabilités et nous lançons un appel par rapport à cela pour que nous puissions mener une vie meilleure pour qu'il y ait le bon vivre au Niger.
Monsieur Alumega, prédicateur, vous convenez de ce qu'il dit?
Je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Révérend Barazé. Effectivement, maintenant, à l'endroit des parents, il faut que les parents s'assument. C'est justement, c'est le constat qui a été fait par des éminents professeurs et des éminents, comment dirais-je, religieux, que maintenant l'État cherche à pallier l'insuffisance de la communication entre père et enfant, entre parents et enfants, puisqu'il n'est pas sans savoir qu'à l'heure actuelle, nous avons de ces enfants qui, quand ils cherchent à poser une question à leur père ou à leur mère, et elle dit « Ah non, j'ai pas le temps, moi j'ai telle chose à faire. » Alors, si tu n'écoutes pas ton enfant, comment est-ce qu'il va pouvoir avoir un enseignement de toi ou une éducation de toi? Et il est obligé d'aller chercher ailleurs. Le plus souvent, c'est à côté avec un collègue avec lequel lui aussi qui n'a pas aussi assez de connaissances que lui, qui doit lui donner une idée qui n'est pas en réalité celle qui, une idée salvatrice pour lui. Et donc, puisque lui-même, il est ignorant en la matière. Alors, il part, il demande, l'autre ne peut lui dire que ce dont il comprend. Et voilà quelqu'un qui vraiment est frustré parce que ses propres parents n'arrivent pas à l'écouter. Or, c'est ce que nous, au niveau des leaders religieux, nous demandons aux parents d'écouter, être à l'écoute des enfants et surtout de communiquer avec ces mêmes enfants, leurs enfants, puisque c'est leur devoir, c'est un droit pour l'enfant d'avoir un conseil, d'être conseillé par leur, mais au besoin même d'être grondé. C'est un plaisir pour un enfant que ton père te dise « ne fais pas telle chose, je n'aime pas te voir à tel endroit ou à partir de telle heure, je vais te trouver toujours à la maison ». C'est de cette manière que l'éducation se fait à la maison. Et le maître de l'école, si c'est l'enseignement qu'on lui demande, il est là pour te donner les connaissances que lui, il a acquis des ouvrages et puis selon son curriculum de formation et ce qu'il a appris pour mettre dans ton petit esprit. Mais toi, le parent, tu dois l'éduquer, le former, l'obliger à respecter certaines nos valeurs. Nous avons nos valeurs ancestrales maintenant qui sont en train d'aller dans tous les sens, puisque ça laisse à désirer à l'heure actuelle. C'est rare, on voit toujours des enfants à des heures indues, alors que des jeunes filles, des petits-enfants et autres qui ne devraient pas être au dehors à certaines heures. Malheureusement, qu'est-ce qui se passe maintenant? Tout simplement, on est obligé de faire recours aux polices, des mœurs et autres pour les obliger à rentrer à la maison ou sinon les amener dormir là où ils ne veulent pas et le lendemain les relâcher. Donc tout ça, c'est ce que nous, religieux, nous attirons l'attention aux gens pour que puisse ce dont je parlais tantôt, le changement de comportement. Il faut que chacun respecte ce dont il doit faire, que sache qu'il a des responsabilités. Le révérend vient de rappeler. Une fois que les contours sont tressés, on a déjà on les laisse aller à l'école. La jeune fille, elle est suivie, elle est encouragée, elle est aidée pour pouvoir mener à bien sa scolarité. Il n'y a pas de problème. Et c'est tout le pays qui va gagner. Alors actuellement, le peu que nous avons déjà, c'est à encourager. On a vu, il n'y a pas de domaine où on ne trouve pas actuellement des femmes. Il y a des femmes ingénieures dans tous les domaines.
Est-ce que vous considérez d'enseigner cela comme étant une bonne chose?
C'est une bonne chose, effectivement. Moi, personnellement, j'avais eu au moment où j'étais dans la fonction publique, j'ai eu des responsables qui étaient des femmes, mais elles n'ont rien à envier aux hommes. Elles étaient plus responsables que certains hommes que j'ai eu à travailler avec eux. Donc, voyez-vous, une femme bien éduquée qui a fait ses études normalement, quand elle a des responsabilités, elle les fait honnêtement et dans les normes. Hein? Plus que l'homme qui cherche toujours à s'occuper de ses propres problèmes plutôt que de s'occuper du problème de service. Or, la femme, elle met le service avant même ses propres intérêts. Personnellement, j'étais avec une femme au niveau de l'enseignement supérieur. On était en commission nationale d'orientation quand elle est partie accoucher. Tu te rends compte? À la dernière moment, elle a quitté la réunion, pour la Commission nationale d'orientation et d'attribution des bourses, qui regroupait 87 personnes. Une heure après, elle a accouché. Voyez-vous? C'est où elle a mis sa responsabilité au-dessus de son propre intérêt, de sa propre santé. Hein? Voyez-vous? Or, les hommes, on court toujours, on ferme le bureau, on part chercher de quoi alimenter ses condiments et autres d'abord, et on revient ouvrir le bureau, alors que les femmes, bien instruites, mises à, comment dirais-je, dans certaines responsabilités, elles le font jusqu'au bout.
Avez-vous donc un appel à lancer pour terminer?
C'est un appel vraiment. La scolarisation, c'est une bonne chose pour tout, pour non seulement pour le père en question, pour la famille, pour sa région, pour le pays entier et même pour le monde en général. La femme, elle doit également être aidée pour aller. Si on veut que le pays avance, il faut que les jeunes filles soient scolarisées et dans les meilleurs délais et dans les meilleurs moyens possibles. Il faut que les moyens soient mis. L'État doit mettre tout, et puis nous savons que le Nigeria a signé beaucoup de conventions pour rehausser le budget sur l'éducation. On doit le faire dans les faits. Il faut que c'est une responsabilité que nos dirigeants doivent assumer aussi.
Merci beaucoup. Il faut donc encourager cette scolarisation de la jeune fille pour mieux faire avancer le pays. C'est vrai que les femmes représentent au Niger un peu plus de 50%, donc c'est un peu plus de la moitié de la population. Si cette partie de la population est privée de ce droit à l'éducation, ça peut être un sérieux problème, vous convenez, pasteur?
Un sérieux problème. On a parlé de l'éducation et on s'est appesanti beaucoup sur l'école. Mais moi, j'aimerais attirer l'attention des parents, leur responsabilité. Vous savez, l'école est là, même si l'école est un bon programme, des bons professeurs. Si les parents n'accompagnent pas leurs enfants, en tout cas, il y aura un vide. Il y a juste deux jours, une fille s'est présentée chez moi pour me montrer son bulletin. J'ai regardé partout, on a mis passable, tout de suite, j'ai compris que cette fille-là, elle a redoublé. Mais à peine elle a eu passable partout, vous voyez, et il y a même insuffisant partout. J'ai compris parce que elle n'a pas eu des parents qui l'ont accompagnée. À deux reprises, j'ai dû intervenir. La maman est partie avec elle au village. En pleine année scolaire, elle est partie avec elle pour passer un mois. Et puis elle est revenue, maintenant on lui a dit de partir, bon, j'ai dû intervenir. J'ai expliqué. Vraiment, elle a besoin d'aide. Heureusement, ils l'ont accepté, ils l'ont redoublé. Mais j'ai compris que le gros problème là où ils se trouvent, c'est le manque d'accompagnement. Il faut que les parents accompagnent leurs enfants. Il faut que les parents prennent du temps avec leurs enfants. Même l'éducation n'est pas seulement au niveau de l'école. À la maison, on commence l'éducation. Quand une mère ne prend pas du temps avec sa fille, comment est-ce qu'elle va comprendre certaines choses qui concernent les femmes? Et on aura beaucoup de surprises. Le jour qu'elle va arriver à l'âge de se marier, elle va arriver même préparée, ça devient un problème. Vous comprenez? Donc, les parents doivent mettre du temps, n'est-ce pas, pour leurs enfants. On m'a raconté l'histoire d'une petite fille qui a envie de parler avec son père. Tellement il est occupé, il n'a pas de temps pour elle. Elle est venue, elle est intelligente, elle a posé la question à son père, en disant, papa, combien on vous donne, on vous paye par mois? Il l'a regardé. Ben, il a répondu quand même. Il dit, bon, ça fait combien d'heures de travail? Il a calculé, il a dit, ça fait tel nombre d'heures. Il dit, bon, tu peux diviser ton salaire là par rapport aux heures que tu donnes. Il a divisé. Il dit, ça fait combien? Non, il a dit, ça fait combien? Et il a dit, l'argent que ça doit coûter une heure de travail qu'il fait. La fille a couru, elle est partie dans sa chambre. Elle avait une petite boîte où elle a réservé de l'argent. Elle a compté cet argent-là d'une heure. Elle dit, papa, je te donne cet argent-là pour que tu me donnes une heure d'entretien avec toi.
Merci beaucoup. Oui,
ça l'a vraiment... Il était surpris, les enfants ont besoin d'être avec leurs parents.
Cela les motive, voilà, cela les incite à aller encore plus loin, y compris donc les jeunes filles. Merci beaucoup, chers auditeurs. Nous sommes au terme de ce forum du studio Kalango qui a eu pour thème la contribution des leaders religieux dans la promotion de la scolarisation de la jeune fille au Niger. Nous retenons que selon en tout cas nos deux invités, l'islam et le christianisme sont favorables à l'éducation de façon générale et à la scolarisation de la jeune fille de façon particulière. Nos deux invités ont d'ailleurs souhaité une meilleure contribution en faveur de cette promotion de la scolarisation de la jeune fille à tous les niveaux au Niger. Ils ont par ailleurs émis le vœu de voir une meilleure implication des parents qui ont beaucoup à faire dans le cadre de cette promotion de la scolarisation de la jeune fille au Niger. Et nous disons merci à nos deux invités, Alou Meiga. Il est prédicateur musulman, membre du bureau exécutif national du comité inter- et intra-religieux du Niger, le CEDIR, et le révérend Baraje Jelgou. Il est pasteur de l'église évangélique de Niamey. Il est également membre du comité exécutif national du comité de dialogue inter- et intra-religieux CEDIR Niger. Merci à vous, chers invités. Merci également à vous, chers auditeurs des médias partenaires de Studio Kalangou, de nous avoir suivis. Au micro, c'était Michel Deji pour la modération de ce forum à la technique Amina Hassan. Agréable soirée à toutes et à tous et au revoir.